l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à foi 100.2.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, Présence Midi, nous sommes en direct jusqu'à 13h, nous sommes très heureux de vous retrouver. Bonjour Anne-Rose Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Je crois que c'est votre semaine préférée.
Oui, c'est vrai, enfin je serai contente dans 10 jours aussi, mais voilà. C'est vrai qu'on est à fond dans les starting blocks, plein de joie et d'espérance pour le pèlerinage de la Bigorre à Lourdes.
Ce sont 5000 catholiques du département des Hautes-Pyrénées du diocèse de Tarbes-et-Lourdes qui se feront pèlerin d'espérance ce week-end au Sanctuaire de Lourdes. Ça va même démarrer dès jeudi. Hein.
Ça commence jeudi avec les écoles catholiques qui vont arriver, qui vont ouvrir les festivités.
On en parlera dans un instant, vous l'avez compris, c'est l'agenda du diocèse de Tarbes-et-Lourdes dans quelques minutes, et puis à vos côtés également un invité.
Oui, le docteur Philippe Deguiral, oncologue médical à l'hôpital de Tarbes-Lourdes, qui nous parlera des cancers précoces.
Puis à 12h30, évidemment, ce sera le journal présenté par Éric Leclerc, mais Éric est d'ores et déjà avec nous pour les titres à la une de l'actualité régionale.
Un exercice de sécurité civile grand barrage de Parlou et de Pont-Salars en Aveyron est organisé le vendredi 17 octobre. Cet exercice simulera la rupture de ces derniers à la suite d'une crue exceptionnelle. À l'occasion de cet exercice, deux dispositifs d'alerte à la population seront testés. Un Ariégeois au gouvernement, le député Liot Laurent Panifou, assurera les relations avec le Parlement dans le gouvernement dirigé par Sébastien Lecornu. Il y a 3 ans, Laurent Panifou a été suspendu du Parti Socialiste. Du 1er au 31 octobre, un mois pour découvrir les 1000 visages de l'architecture contemporaine en Occitanie. L'architecture est partout dans les lieux que nous habitons, ceux que nous traversons, ceux que nous partageons. Pourtant, elle reste souvent invisible ou perçue comme réservée aux spécialistes. Cette 8e édition du mois de l'architecture en Occitanie invite à regarder autour de nous, à interroger notre cadre de vie et à explorer les multiples façons d'habiter le monde.
Merci Éric Leclerc, on vous retrouve à 12h30 pour développer ces titres dans le journal. À tout à l'heure Éric.
Radio Présence à Ax-les-Thermes, 92.7.
Du 16 au 21 octobre prochain, ce sont 5000 catholiques du diocèse de Tarbes et Lourdes qui sont attendus au sanctuaire de Lourdes. Rebonjour Andros Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Une chronique consacrée donc à ce pèlerinage de la Bigorre avec un beau programme en perspective. Hein.
Oui, et ça démarre ce jeudi 16 octobre, vous l'avez dit, avec les élèves de la CP au CM2 qui ont rendez-vous avec leurs enseignants et toutes les équipes pédagogiques des écoles catholiques. Ils ont rendez-vous au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et c'est eux qui ouvrent le pèlerinage annuel de la Bigorre et des Quatre Vallées à Lourdes.
Puis ce sont les personnes malades, âgées ou en situation de handicap qui seront accueillies.
Oui, avec l'hospitalité de Bigorre, ils arriveront, tous ces pèlerins malades, âgés ou en situation de handicap, ils arriveront samedi matin, ils seront là pour 4 jours. Ils seront accueillis par l'hospitalité de Bigorre, mais aussi par les jeunes, les JHO, les jeunes lycéens qui sont au service des malades, qui découvrent vraiment la diaconie, le service du frère. Donc ils sont aidés des hospitaliers expérimentés et puis ils passent 4 jours, eux aussi, au début de leurs vacances scolaires pour prendre soin de leurs frères et sœurs.
Alors vraiment, durant 4 jours, ce sont des rendez-vous communs, ouverts à tous et gratuits. Hein.
Oui, parce que vous l'avez compris, hein, on en parle depuis plusieurs semaines, il y a des programmes spécifiques par tranche d'âge. Alors, à commencer toujours par les pèlerins accueillis par l'hospitalité, parce qu'à Lourdes, d'abord, on prend soin des personnes malades. Et bien sûr, les malades ont leur programme, les collégiens, les lycéens, les enfants le dimanche avec le service diocésain de la catéchèse, mais au milieu de tout ça, eh bien, il y a quand même un certain nombre de rendez-vous qui sont ouverts à tous, gratuits, sans inscription et notamment pour les journées de samedi et de dimanche.
Justement, puisqu'on parle de ce week-end, il y a des paroisses qui vont venir à Lourdes à pied. C'est le cas de la paroisse d'Argelès-Gazost.
Oui, tout à fait. Alors, il y a des paroisses qui... Toutes les paroisses vont venir à Lourdes dimanche, hein, parce que c'est vraiment la journée. On pourra détailler le programme juste après. Mais effectivement, il y a des paroisses qui organisent des bus. Et la paroisse d'Argelès-Gazost, qui n'est pas si loin de Lourdes, eh bien, propose de venir à pied au départ de 6h15 depuis l'église d'Argelès-Gazost. Départ des marcheurs, alors il faut venir avec sa frontale hein, parce qu'à 6h15 on a besoin de la frontale et puis 14 km en suivant la coulée verte voilà, le long du Gave pour arriver au sanctuaire de Lourdes et rejoindre tous les pèlerins qui arriveront, certains en bus, certains en covoiturage, d'autres peut-être à pied encore. Je sais que dans les villages du Haut ou du Bas Marquisat, eh bien, il y a des pèlerins qui se préparent pour venir à pied aussi au sanctuaire de Lourdes dimanche matin et tout le monde va se retrouver en l'église Sainte-Bernadette à partir de 10h.
Avec à 10h l'accueil et puis à 10h30 il y aura le lancement de la journée avec l'évêque Mgr Jean-Marc Mika.
Oui, exactement, à 10h accueil, lancement de la journée accueil de la journée vraiment dans une ambiance très festive. C'est là qu'on accueille les groupes d'enfants, les groupes des paroisses, les services, les mouvements de jeunesse aussi, je pense à l'Action catholique des enfants par exemple, mais il y en a plein d'autres, les scouts et guides de France aussi également, enfin il y en a beaucoup d'autres, tout le monde arrive à partir de 10h. À 10h30, c'est un vrai lancement. À 11h, notre évêque, Mgr Jean-Marc Mika, va nous parler, va échanger avec nous, mais surtout nous présenter ses orientations pastorales, nous dire un peu quelle vision il a pour l'église du diocèse pour les prochaines années. Donc c'est vraiment un moment très attendu. À 11h, en l'église Sainte-Bernadette, Mgr Mika prendra la parole pour nous présenter ses orientations pastorales.
Direction ensuite la grotte pour l'Angélus.
Exactement, à midi, l'Angélus à la grotte. Et puis après, eh bien, tout le monde se retrouve sur la prairie de l'autre côté du Gave pour partager le pique-nique. Alors attention, Gilles, il faut venir avec son pique-nique, il faut venir aussi avec
son dessert. Ça a été bien noté.
Hein. Ah oui, alors quand je dis son dessert, c'est pas tout à fait exact, c'est un dessert à partager. Voilà. Alors l'idée, vous voyez bien, Gilles, quelqu'un va venir avec une tourte aux myrtilles, quelqu'un va venir avec des merveilles, etc., etc. Et on va mettre tout ça en commun, on va faire une farandole des desserts. N'oubliez pas votre tasse pour pouvoir boire un petit café avec tout ça. Et pendant qu'il y a cette rencontre festive autour du pique-nique, des desserts, etc., bien, il y a aussi beaucoup de jeux qui sont organisés. Et ces jeux, alors je ne peux pas tous vous les présenter, mais il y a une histoire de pétanque-chaussette. Enfin, il y a beaucoup de choses pour s'amuser, mais surtout pour se rencontrer.
Voilà, et ces jeux, ce sera bien sûr la prairie hein, du sanctuaire.
Exactement.
Et puis, bien entendu, à 15h30, l'incontournable chapelet médité depuis la grotte Massabie à la grotte de Lourdes.
Oui, exactement, aux intentions du diocèse, c'est vraiment, ce chapelet sera vraiment médité pour notre église diocésaine, pour tous les pèlerins qui seront présents et pour tous ceux qui n'auront pas pu venir, qui nous suivront via les ondes de Radio Présence notamment.
Alors, la messe diocésaine cette année, eh bien, ce sera le dimanche après-midi dès 16h20.
À 16h20, en l'église Sainte-Bernadette, au même endroit où nous nous serons retrouvés le matin, eh bien, on s'y retrouve à nouveau l'après-midi à 16h20 pour la messe chantée par la chorale diocésaine, bien sûr. Et puis ensuite, eh bien, peut-être que certains bus vont repartir vers les paroisses, mais en tous les cas, ceux qui le peuvent sont vraiment invités à rester jusqu'au soir, puisqu'à 21h, il y a la procession mariale. Là encore, ce sera vraiment l'occasion de confier à la Vierge Marie les intentions de notre église diocésaine.
Voilà, le pèlerinage va se poursuivre avec. Il se terminera le mardi 21 octobre avec à 10h la messe d'envoi à la grotte. Hein.
Exactement, la messe d'envoi à la grotte le mardi 21 octobre. Ce sera la clôture du pèlerinage et ce sera encore une fois une célébration à suivre sur Radio Présence.
Alors évidemment, l'objectif du pèlerinage, hein, c'est de nous rassembler, de prier ensemble. Hein. Tout le diocèse de Tarbes et Lourdes est attendu à Lourdes pour vivre ce temps de pèlerinage.
Et oui, parce que c'est vraiment le rendez-vous de l'année qui rassemble toutes les réalités de notre diocèse, de l'église de Tarbes et Lourdes, de l'église des catholiques des Hautes-Pyrénées, toutes les réalités, toutes les sensibilités. Nous avons tous rendez-vous au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et je rappelle qu'il y a vraiment aussi une proposition tout à fait spécifique faite pour les personnes qui peut-être eh bien sont recommençantes ou catéchumènes ou qui ont un peu de mal à peut-être à faire un pas vers leur paroisse. Vraiment, c'est un appel que je lance avec insistance. Vous avez votre place dans ce pèlerinage. village. Il y a vraiment des équipes qui sont là pour vous accueillir et l'ensemble du diocèse est heureux vraiment de vous accueillir dans ce pèlerinage. Chaque personne du diocèse de Tarbes et Lourdes a sa place dans ce rendez-vous à Lourdes.
Voilà, on l'a entendu, hein, en plus de ces moments pour tous, des propositions spécifiques par tranche d'âge sont vraiment faites, hein, vraiment pour tout le monde.
Oui, parce que bien sûr, comme chaque année, le service diocésain de la catéchèse se mobilise, est déjà mobilisé depuis plusieurs mois, et via les groupes de caté qu'il y a un petit peu partout, dans toutes les paroisses, dans les communautés chrétiennes, eh bien là, il y a des, voilà, des catéchistes qui se sont préparés, qui ont préparé les enfants qu'elles accompagnent, et qui vont venir pour cette journée du dimanche. Ils auront tout un petit parcours, et puis bien sûr des moments où ils seront avec tout le reste du diocèse, hein, bien sûr la messe l'après-midi, mais aussi dans la journée, une manière peut-être plus ludique de découvrir le message de Lourdes et le visage de Sainte Bernadette.
Allez, vous qui nous écoutez en Bigorre et qui hésitez encore peut-être un peu, venez à Lourdes ce week-end. Hein.
Ah bah oui, voilà. Venez à Lourdes, vraiment, vous attend, on vous attend. Et pas seulement pour le dessert, mais aussi parce que c'est vraiment bon et ça fait du bien de se retrouver, de vivre ensemble ce rendez-vous annuel, vraiment.
Les desserts, farandole de dessert.
Farandole de dessert.
Pèlerinage voilà. Donc du diocèse de Tarbes à Lourdes, c'est donc ce week-end dans le sanctuaire de Lourdes. Alors évidemment, l'actualité ne s'arrête pas au pèlerinage de la Bigorre, l'actualité va se poursuivre. On peut d'ores et déjà noter quelques dates, notamment celle du Narthex, début novembre.
Oui, effectivement, vous avez raison Gilles, parce que juste après le pèlerinage, la Toussaint arrive très vite. Alors là, vraiment, renseignez-vous, parce que vous savez que les curés et tous les prêtres du diocèse sont très mobilisés pour aller bénir les tombes dans les cimetières. Donc renseignez-vous auprès de vos paroisses. Donc, et puis après la Toussaint, eh bien, la vie continue dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Et effectivement, la quinzaine du Narthex aura lieu début novembre. C'est la 32e édition de la quinzaine du Narthex qui aura lieu à Tarbes. Elle permettra cette année d'échanger sur la confiance. Et il y a plusieurs rendez-vous vraiment intéressants, notamment le jeudi 13 novembre, une conférence du père Pierre de Berger, espérer contre toute espérance. Nous en reparlerons, mais enfin, voilà, cette quinzaine du Narthex du 3 au 14 novembre, c'est vraiment un rendez-vous incontournable, hein, pour notre vie diocésaine. C'est un temps à la fois de rencontres, de réflexions, d'échanges. Voilà, aujourd'hui, à qui et comment faire confiance, ce sera le thème de cette 32e édition.
Et le reste de l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes, on peut le retrouver sur catholique65.fr.
Et sur l'application Clocher et dans le bulletin diocésain.
Voilà, il ne faut pas l'oublier.
S'il
Merci, Anne-Rose Jankovic. Vous restez avec nous dans un instant,
Bien
on
sûr.
Vous retrouve avec votre invité.
On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout. Sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien.
quel monde on vous laissera. On fait notre mieux seulement parfois. J'ose espérer que cela suffira. Pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour elle, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde.
Et c'est vraiment ce qu'on vous souhaite. C'était tout le bonheur du monde à 12h16.
Radio Présence dans le Lauragais, 97.9.
La suite de cette émission, c'est avec vous Anne-Rose Jankovic et votre invitée.
Alors que le mois octobre rose se poursuit, encourageant le dépistage du cancer du sein, nous allons aujourd'hui parler des cancers précoces, c'est-à-dire les cancers qui touchent une population de moins de 50 ans. Et nous en parlons avec Dr Philippe Deguiral. Bonjour à vous docteur.
Bonjour.
Vous êtes oncologue médical, vous exercez à l'hôpital de Tarbes-Lourdes et vous allez nous expliquer de quoi on parle quand on évoque les cancers précoces. Un dossier paru ce mois-ci dans le magazine Science et Avenir parle d'une mystérieuse épidémie et avance des données pour le moins inquiétantes, dont celle-ci, 79,1%. C'est le taux d'augmentation de cancer diagnostiqué chez les adultes de moins de 50 ans entre 1990 et 2019. Un taux qui s'appuie sur des données mondiales. Alors, on a envie de vous demander, que se passe-t-il, docteur? Est-ce que ça veut dire que finalement, le cancer n'est pas, comme on le croyait, une maladie vraiment liée au vieillissement? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on ne savait pas, qu'on est en train de découvrir? Quelles observations médicales, scientifiques, vous faites en tant que cancérologue pour affirmer que oui, aujourd'hui, il y a une vraie augmentation des cancers précoces?
Alors, nous, les cancérologues, il faut peut-être pas trop nous écouter. Il faut regarder les chiffres et les données qui sont publiées dans la littérature, parce que nos impressions, parfois, peuvent être différentes. De la même façon que depuis que je suis cancérologue, ça fait un certain nombre d'années, tous les ans, j'entends les patients me dire « il y a de plus en plus de cancers autour de moi, je vois de plus en plus de cancers ». Le cancer est une maladie de l'adulte âgé, et ça c'est toujours le cas, et la médiane est à peu près au-delà de 60 ans, et ça, ça se modifie pas. On a même des cancers dont la médiane c'est 70 ans, hein, donc c'est pas avant 50 ans. Effectivement, il y a des personnes qui sont diagnostiquées avant 50 ans, et l'étude dont vous parlez, qui a été, dont se relaie la revue Science et Avenir, en fait elle a déjà 2 ans, et elle est mondiale, avec des données mondiales d'incidence. Donc là, on va définir quand même quelques mots hein, pour que les auditeurs
pour savoir
puissent
bien, de quoi on parle,
bien se retrouver. Alors l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas atteints d'une maladie, en l'occurrence le cancer, le plus souvent par an. Et l'idéal, c'est aussi de la rattacher au nombre de la population pour 100 000 personnes. Parce que vous imaginez bien qu'en 20 ans, si la population augmente de 20%, eh ben, inéluctablement, si le taux de cancer ne change pas, on aura 20% de plus de cancer. Donc, c'est pour ça qu'il faut nuancer tous les chiffres. Après, le taux de mortalité, ben, c'est la même chose, mais c'est en mortalité. Et puis, il y a un taux qui est compliqué à expliquer, qui est le taux standardisé, et ça serait le meilleur taux possible. C'est-à-dire que c'est une prouesse statistique, pour pouvoir comparer des pays, des régions, des groupes de personnes où on standardise cette population à une population européenne ou mondiale avec les mêmes moyennes d'âge, les mêmes sexes, les mêmes... Et c'est ça qu'on devrait pouvoir faire.
Alors, on devrait pouvoir faire, donc on n'y arrive pas vraiment en fait.
Non, mais même l'incidence. Là, cette étude, elle est mondiale. Et il n'y a pas du tout par centaines de milliers de personnes, cette étude... Et d'ailleurs, elle a été critiquée par les auteurs eux-mêmes. Et puis aujourd'hui, grâce à vous, j'ai pu lire beaucoup de choses pour préparer cette rencontre. Donc je vous remercie beaucoup, beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup de choses. D'abord, elle a 2 ans. Et puis, il faut faire très attention aux chiffres parce qu'on entend, il y a des termes de tsunami, d'explosion. Là, on parle d'épidémie. Une épidémie, c'est une connotation, c'est une définition.
Une épidémie mystérieuse en plus. Donc, ça
alors,
veut dire
en plus mystérieuse.
Ça veut dire qu'on peut rien expliquer.
Alors, en plus mystérieuse. Déjà, épidémie, c'est quand on a une augmentation importante d'une maladie dans un endroit précis. Et c'est pas forcément le cas. Dans le monde entier, alors, les incidences de cancer en France, on est assez bien doté de différents dossiers, et notamment ce qu'on appelle des registres. Donc, on a le registre des cancers.
C'est-à-dire par catégorie de cancer.
Exactement, c'est ça, les registres. Alors, souvent, c'est dans des départements et on essaye d'évaluer dans la France entière. On extrapole à la France entière, c'est à peu près le quart de la population et on regarde sur une période de 10, 20, 30 ans l'évolution du nombre de nouveaux cancers.
Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous observez? Est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, ben oui, il y a beaucoup plus de cancers du côlon chez les femmes de moins de 50 ans? C'est un fait, c'est scientifique et c'est comme ça.
Alors, tout d'abord, comme vous l'avez dit, c'est les cancers. Donc, il y a différents types de cancers avec des facteurs de risque très différents. Mmh. Et si l'on regarde, avant de parler de ceux qui ont de moins de 50 ans, il y a une évolution différente selon le type de cancer et même selon le sexe. Selon les hommes et les femmes.
Et comment on l'explique, ça?
Alors, ça peut s'expliquer de différentes façons. D'abord, l'augmentation, tout simplement, déjà sur le plan démographique, il y a plus d'habitants, donc il y a plus de cancers. Ensuite, il y a un dépistage qui est plus important, et un accès aux soins qui est plus important aujourd'hui qu'il y a 50 ans.
Cela dit, s'agissant du dépistage, il est proposé en France, et je pense que c'est pareil dans les pays d'Europe, à partir de 50 ans. Il y a d'autres pays dans le monde où le dépistage est proposé plus jeune?
Alors, dans certains pays, et puis il y a des projets, effectivement. Alors, quand on voit déjà la réussite du dépistage en France, dans le cancer du sein, on doit être entre 5, on a à 50% à peu près. Le cancer du côlon, c'est 40%.
C'est-à-dire, vous voulez dire que
il y a 40% des personnes
qui viennent,
qui répondent à l'invitation qu'on leur propose de faire un test.
Bon, déjà, là, il y a un sujet.
Il y a un sujet. Après, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on peut réfléchir au dépistage. Parce que là aussi, dans le dépistage, il y a deux définitions. Il y a le dépistage organisé. Ça, c'est l'État, c'est les pouvoirs publics. C'est l'invitation qu'on reçoit dès qu'on a 50 ans.
Systématique.
Quand on n'a pas d'antécédent. Quand on n'a pas d'antécédent. Et puis après, il y a le dépistage individuel, grâce au médecin traitant. On a 40 ans, on a 70 ans, on a des signes, des symptômes qui laissent penser que ça pourrait éventuellement être un cancer. Mmh. Et là, on va faire des examens. Vous imaginez bien que le dépistage en France n'est pas le même au Togo, en Asie ou en Allemagne. Voilà. Donc, et on peut imaginer aussi que le dépistage n'est pas proposé de la même façon il y a 40 ans, il y a 20 ans et aujourd'hui. Mmh. Donc, ça peut aussi, en partie, expliquer une augmentation de l'incidence du cancer. Il y a beaucoup sûrement de nos parents et grands-parents qui sont morts de maladies, on ne savait pas que c'était des cancers.
Oui. Donc, vous confirmez que oui, c'est toujours, le cancer est toujours une maladie liée au vieillissement, et que, en fait, finalement, si je vous suis, si on se dépistait tous plus tôt, peut-être qu'on pourrait découvrir, potentiellement, on pourrait tous découvrir un cancer ou une maladie un petit peu de ce genre-là.
Alors, ça serait carrément un débat à part entière. Est-il intéressant de diagnostiquer un cancer? Il y a des cancers où c'est pas forcément obligatoirement intéressant.
Pourquoi?
On peut mourir avec, mais pas à cause d'un cancer. Il y a ce qu'on appelle une notion qu'on pourrait là aussi expliquer, mais il faudrait de nombreuses minutes, le surdiagnostic. On peut dépister des lésions précancéreuses, on peut dépister des petits cancers qui ne évolueront pas forcément et qui n'aboutiront pas forcément à la mort. Donc c'est
ce que vous dites là peut remettre en cause beaucoup de choses sur notre manière de d'appréhender cette maladie quand même.
Oui, mais là c'est pour ça que je dis les maladies.
Ouais.
Tout dépend. Vous voyez, allez une minute. Il y a un dépistage organisé en France pour le cancer du côlon.
Oui.
D'abord, on se trompe. On devrait dire lésion précancéreuse du côlon, parce qu'on recherche du sang dans les selles. Et le but, c'est de trouver des polypes. C'est pas de trouver un cancer. C'est de trouver des polypes, de les enlever avec une coloscopie lors d'un geste simple et de prévenir le cancer qui serait arrivé si. Mmh. Dans la mammographie, c'est un petit peu différent. Mais je suis persuadé que dans le subconscient du grand public, on parle beaucoup du cancer du sein et on a tout à fait raison d'en parler. Mais est-ce que les gens savent que probablement le dépistage du cancer du côlon a beaucoup plus d'intérêt sur la santé publique que le dépistage du cancer du sein?
Expliquez-nous ça, pourquoi?
Eh bien, parce que l'intérêt d'un dépistage organisé, je dis bien organisé, j'insiste, c'est ce qu'on appelait autrefois dépistage de masse, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas d'antécédents et qui n'ont pas de symptômes. Le but, on est bien d'accord, c'est ce qui est indiqué partout, c'est de diminuer la mortalité par cancer et même au total de diminuer la mortalité tout court. Mais quand on diagnostique des lésions, ça amène à des examens complémentaires, à des chirurgies, à des traitements qui ont leur propre effet indésirable, qui ont leurs propres complications. Et au final, il faut regarder ce qui se passe au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans.
Donc vous êtes en train de nous dire, docteur Philippe Desguirals, qu'à force de chercher, on trouve un cancer ou d'autres problèmes que peut-être on n'aurait pas trouvé et qui ne se seraient jamais manifestés.
Alors, c'est possible. Mais
cela dit, le dépistage et le dépistage systématique qui est proposé à partir de 50 ans, c'est quand même une chance, c'est quand même une bonne nouvelle de pouvoir avoir ça.
Tout à fait. C'est pas proposé dans tous les pays. Et
en tous les cas, en France, on a de la chance de pouvoir avoir ce dépistage proposé. Là, bon, évidemment, on parle beaucoup du cancer du sein en ce mois d'octobre rose. Heureusement quand même qu'il y a tout ça.
Le dépistage est très important. Le moment d'octobre rose me paraît important parce qu'il est important de parler du cancer, il est important de parler des malades cancéreux. Je crois qu'il faut nuancer l'intérêt propre du dépistage au niveau de la santé publique. Mmh. Mais je suis complètement favorable, et encore plus quand une femme a des symptômes ou autres, de pouvoir organiser tout ce qu'il faut pour dépister. Et puis en France, on a la chance d'avoir des soins de qualité.
Alors, avant la pause, je reviens un petit peu quand même au sujet tout à fait initial. Vous, docteur Philippe Desguirals, dans votre service, vous exercez donc dans l'hôpital Tarbes-Lourdes. Vos patients, les personnes qui viennent vous voir pour être accompagnées, suivies, guéries, elles ont quel âge? Est-ce que vous observez un changement, une évolution?
On l'observe dans quelques cancers.
Lesquels?
Je vais vous répondre tout de suite. Mais qui sont très différents et peut-être avec des causes différentes. Il y a le fameux cancer du pancréas, où là, on observe depuis 20 ans une augmentation régulière, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et d'abord, globalement, tout âge confondu, mais beaucoup qui ont moins de 50 ans.
Et ça, vous pouvez l'expliquer?
On faut lire la littérature, il y a beaucoup d'hypothèses, probablement liées au mode de vie. Les pesticides sont incriminés. On parle du cadmium dans les métaux lourds qu'on retrouve dans certains aliments et dans l'environnement. La pollution environnementale, la pollution de l'air, c'est vraiment des facteurs de risque dont on parle, mais on ne peut pas l'affirmer avec certitude. Un autre cancer qui est vraiment beaucoup plus fréquent, et notamment chez la femme. Moi, je suis un vieux cancérologue, maintenant j'ai plus de 60 ans. Nous pouvons affirmer aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de cancers du poumon chez les non-fumeurs. Le tabac est toujours le principal facteur de risque des cancers du poumon.
Aujourd'hui, vous êtes venu vraiment pour casser beaucoup d'a priori ou d'idées.
Je dis bien, le tabac est toujours le facteur de risque principal qui correspond à...
Mais vous avez des non-fumeurs qui développent des cancers de poumon.
Et de plus en plus, soit qui ont arrêté de fumer il y a un certain temps, soit qui n'ont jamais fumé. Et dans ce type de cancer... il y a ce qu'on appelle des mutations, c'est-à-dire des anomalies en biologie moléculaire, des anomalies dans le génome, dans les gènes, dans les chromosomes des cellules. Et ces anomalies entraînent une activation de l'oncogène, du gène du cancer, de certains gènes. Et on le découvre dans la réalité parce que ça peut entraîner d'ailleurs, et de façon positive, des traitements particuliers, spécifiques, qu'on appelle des thérapies ciblées. Et là, chez ces personnes, on va leur proposer des comprimés plutôt que de la chimiothérapie par voie veineuse. Et là, on observe une augmentation nette, et ça, c'est au niveau mondial. Et il y a là aussi des hypothèses dans les facteurs de risque, notamment la pollution environnementale. Là. Et je ne parle pas du tabagisme passif. Je parle bien, on incrimine beaucoup les microparticules, qui peuvent être à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur, dans les usines, mais je parle dans le monde entier. Et le diesel, par exemple,
Ça veut dire qu'on y est tous exposés très jeune, enfin peut-être même déjà quand on est dans le ventre de notre maman, on est tous exposés à ces maladies ou à tout le cas à ces facteurs de risque.
Oui, oui.
Et tout le temps, et partout.
Alors, on fait de plus en plus de recherches sur la biologie moléculaire. On arrive à obtenir des résultats très intéressants pour justement bien identifier les traitements et personnaliser les traitements.
Oui.
Et peut-être que dans les années qui viennent, on pourra peut-être plus justement prévenir ces cancers, les dépister plus tôt, en faisant des analyses moléculaires, par exemple. Ça, c'est un point très positif.
On marque une pause, on se retrouve dans un instant. Docteur Philippe Deguiral, à tout de suite.
Et cette pause, on la marque avec Éric Leclerc pour le journal régional. À tout de suite, Anne-Rosé.
Bonjour, un exercice de sécurité civile grand barrage de Parlou et de Pont de Salars en Aveyron est organisé le vendredi 17 octobre. Cet exercice simulera la rupture de ces derniers à la suite d'une crue exceptionnelle. À l'occasion de cet exercice, deux dispositifs seront testés. La préfecture de l'Aveyron est susceptible d'activer le système d'alerte des populations FR Alerte et le système d'alerte et d'information population. Son déclenchement s'effectuera en trois cycles successifs d'une durée de 1 minute et 41 secondes chacun. C'est par un silence bref, un second retentissement signalant la fin d'alerte avec un cycle unique d'une durée de 20 secondes. Un Ariégeois au gouvernement, le député Liotte Laurent Panifou, assurera les relations avec le Parlement dans le gouvernement dirigé par Sébastien Lecornu. Il y a 3 ans, Laurent Panifou a été suspendu du Parti Socialiste. Jusqu'au 18 octobre, ce sont les journées France Service, l'occasion de découvrir ou redécouvrir les France Service. Ces dernières permettent l'accès en un seul et même lieu aux principaux organismes de service public. Exemple, dans les Hautes-Pyrénées, les 19 France Service rassemblent 12 organismes nationaux et 5 locaux pour vous permettre de faire vos démarches administratives ou de vous orienter en un seul lieu sur la santé, la retraite, les allocations familiales, le logement, la recherche d'emploi, les impôts ou bien encore le permis de conduire. Du 1er au 31 octobre, un mois pour découvrir les 1000 visages de l'architecture contemporaine en Occitanie. L'architecture est partout dans les lieux que nous habitons, ceux que nous traversons, ceux que nous partageons. Pourtant, elle reste souvent invisible ou perçue comme réservée aux spécialistes. Cette 8e édition du mois de l'architecture en Occitanie invite à regarder autour de nous, à interroger notre cadre de vie et à explorer les multiples façons d'habiter le monde. À Saint-Girons, conférence de l'architecte et urbaniste Philippe Madec autour de la frugalité heureuse et créative, concept qu'il porte depuis de nombreuses années, suivi de la projection d'un film, une soirée pour repenser en profondeur notre rapport au bâti, à la ressource et au territoire. Rendez-vous le 16 octobre à la salle Max Linder à Saint-Girons. Samedi 11 octobre, à l'occasion de la Journée nationale de commerce de proximité, la ville d'Auch met en lumière les commerces locaux en proposant de nombreuses animations en cœur de ville auxquelles viennent s'ajouter les dégustations dans les magasins participant à cette opération. Les commerçants qui sont partenaires de la ville d'Auch pour cette opération nationale seront facilement repérables avec leur drapeau Oriflamme distinctif en devanture. À noter, parmi les animations, des stands l'outil en main de la Chambre des métiers et de l'artisanat de 8h à 12h sur le parvis de la cathédrale d'Auch.
Merci Éric Leclerc, retour de l'info sur notre antenne à 13h avec la rédaction française de Radio Vatican pour l'actualité nationale et internationale. Dans moins d'une minute, on retrouve Anne-Rose Jankovic et son invité.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous?
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Radio Présence, dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Et nous sommes toujours avec Dr Philippe Deguiral, donc oncologue médical à l'hôpital de Tarbes-Lourdes. Dr Philippe Deguiral, vous nous aviez parlé de plusieurs choses avant cette pause. On va continuer sur les facteurs de risque un petit peu, puisqu'on s'est quitté là-dessus. Toujours dans ce dossier paru dans le magazine Science et Avenir, le docteur Giacomo Cavalli, qui est chercheur à l'Institut de génétique humaine à Montpellier, explique que nos modes de vie ont leurs responsabilités puisqu'ils ont favorisé une déprogrammation épigénétique. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là?
C'est un beau mot. Hein.
Oui, c'est un beau mot, mais...
Ça jette hein, quand on dit ça.
Ça en jette, oui, c'est vrai.
Ça en jette, et en même temps, ce sont surtout des hypothèses, ou du moins un phénomène, mais qui est difficile pour un cancer précis à mettre en évidence. Tout à l'heure, on a terminé notre première séquence par le cancer du poumon.
Oui.
Il y a ce qu'on appelle, dans les gènes, des gènes suppresseurs. Ils sont oncogènes dans le sens où si ces gènes suppresseurs sont activés ou pardon désactivés, c'est-à-dire que si d'un seul coup il y a une mutation dans ces gènes et qu'ils ne sont plus actifs, et bien comme leur rôle c'est de maintenir la cellule dans une certaine normalité, et bien la cellule va devenir précancéreuse et cancéreuse. Et jusqu'à présent et on le dit encore, mais on pensait que les cancers, par définition, puisque les cancers surviennent chez des gens plutôt âgés, donc il y avait dans la vie de tous les jours et dans toute une vie entière, au fur et à mesure des années, eh bien, on peut avoir des mutations et des anomalies sur ces gènes. Mais il peut y avoir des phénomènes qui vont intervenir plus tôt.
Et qui vont donc aggraver.
Et qui vont donc entraîner une incidence de ces cancers beaucoup plus jeunes.
Donc des facteurs de risque en fait qui se multiplient, ça fait un petit peu effet boule de neige.
Voilà, et c'est souvent multifactoriel. On dit toujours que le cancer est multifactoriel. Alors c'est ça la définition aussi de facteur de risque. Parfois dans les articles, même de bonne presse, on parle de cause. Non, il faut pas dire cause, il faut dire facteur de risque. Bon, alors dans le cancer du poumon, le tabac c'est presque une cause, mais on va dire que c'est un facteur de risque. La preuve, vous avez des gens qui fument qui n'ont pas de cancer, et on a vu tout à l'heure qu'il y a des gens qui fument pas et qui ont des cancers, mais c'est une question de statistique. Voilà. Et en tout cas, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que presque 40% des cancers ont des facteurs de risque identifiés, et que...
Ça veut dire qu'on peut les éviter. Ou du moins...
En partie, oui.
Par exemple, de la prévention, du coup. On parle pas de dépistage, là, on parle de prévention.
C'est ça. On pourrait éventuellement, je parlais tout à l'heure des pouvoirs publics, de l'État, peut-être investir beaucoup plus là-dedans. Si on diminue le tabagisme, on va diminuer le risque de cancer du poumon.
Mais on n'est pas tous égaux par rapport à ces facteurs de risque.
Mais regardez, les cancers du poumon chez l'homme diminuent. Chez l'homme, hein. Pas chez la femme. Le cancer du poumon diminue parce qu'il y a une diminution du tabagisme en France, chez l'homme. Donc, on voit bien que est-ce que c'est les campagnes de prévention qui ont agi, je ne sais pas. En tout cas, une dénormalisation peut-être dans notre société de la personne qui fume.
Oui.
On est moins bien considéré peut-être. Voilà. Et chez la femme, le tabagisme important a été décalé de nombreuses années. Et on voit en France, en Europe, ce qui s'est passé aux États-Unis il y a 20 ans, c'est-à-dire une augmentation des cancers du poumon chez les femmes fumeuses. Et si d'autres facteurs de risque, l'alcool, alors parfois les deux sont imbriqués, tout ça c'est des facteurs de risque qu'on dit exogènes, extérieurs en tout cas. Voilà. Chez la femme, dans le cancer du sein, alors je vais prononcer des facteurs de risque, mais je ne vais pas annoncer leur portée, leur importance, on va dire. Hein.
Oui.
Mais par exemple, on sait que l'absence d'allaitement est un facteur de risque. La grossesse tardive est un facteur de risque. C'est un mode de vie. Je ne dis pas aux dames, il faut absolument allaiter.
Ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui n'ont pas allaité vont avoir un cancer du sein.
Bien entendu. Je répète, ce sont des facteurs de risque qu'on voit sur des grandes populations.
Ouais.
Mais on sait aussi, dans le débat actuel, on parle beaucoup de perturbateurs endocriniens.
Ouais.
C'est un nom qu'on entend. Et puis, on parle beaucoup de pollution environnementale. On parle de microplastiques qu'on retrouve dans... plein d'endroits et plein de même peut-être d'aliments. Il y a des études même dans le corps humain, on peut en retrouver. Bon, ça peut avoir un caractère hormonal.
Et ça peut déclencher ou être un facteur de risque pour tous les cancers. Est-ce qu'il y a des cancers qui sont plus sensibles à ces facteurs là que vous décrivez, notamment sur l'environnement ou...
Le cancer du sein, je pense que c'est hormonal. Donc peut-être même que alors il y a des cancérologues et des chercheurs qui actuellement émettent des hypothèses même sur l'embryogenèse, hein. C'est-à-dire que la femme enceinte vit dans un contexte de pollution environnementale ou d'autres, Et le bébé qui va naître, peut-être, aura plus de facteurs de risque de faire un cancer plus tard en fonction de ça. Mais là, ce sont des hypothèses que je donne et on n'a aucune certitude dans un domaine très précis.
Alors, comment, quand on n'a pas de certitude, on met en place de la prévention, justement?
Je pense qu'aujourd'hui, la prévention, il faut qu'elle soit à fond sur le tabac et l'alcool. Ça, c'est...
Mais ça ne suffira pas, de toute façon, puisque vous nous parlez de problèmes environnementaux aussi, etc.
Oui, mais aujourd'hui... quand j'ai dit qu'on a de plus en plus de cancers du poumon chez les non-fumeurs, c'est quand même 80% sont fumeurs. Hein? Et donc, 20% sont non-fumeurs, et dans les non-fumeurs, peut-être qu'il y en a qui ont eu du tabagisme passif ou autre. Donc, il faut beaucoup, beaucoup s'intéresser aux non-fumeurs qui ont un cancer du poumon, parce que quand même, de toute façon, il faut s'intéresser à toutes les personnes atteintes de maladies. Mais ça n'empêche que les patients qui fument ont un très gros risque de faire des maladies graves.
On peut échapper au cancer aujourd'hui?
Par volonté, par... c'est ça?
Oui.
Je parle de facteurs de risque. Donc, bien entendu, quand on ne grille pas les feux rouges et quand on met la ceinture de sécurité, on a moins de risque d'avoir un accident, mais on peut en avoir un quand même. Mais on a moins de risque. Tout est question de risque. Il y a aujourd'hui des personnes de 65 ans qui ont différents cancers et qui mangent bio toute l'année et qui ne fument pas, ne boivent pas d'alcool. Mais ça n'empêche que si on est en rapport avec tous ces facteurs de risque, eh bien le risque augmente. Donc voilà.
Quid de l'évolution des traitements et des moyens mis en place pour soigner?
Alors, c'est très très important et... Je fais une première parenthèse vite, rapide, oui. Madame Jankovic. Il y a un domaine que je n'ai pas abordé, c'est les facteurs sociodémographiques. C'est extrêmement important. Et ça, il y a des personnes qui font beaucoup de recherches là-dessus, et le professeur Delpierre à Toulouse est vraiment très en avance. Quand on parlait de cancer précoce, ceux qui augmentent, c'est justement dans des catégories sociales qui sont favorisées et pas défavorisées. Donc, qui sont peut-être plus en lien avec tous les facteurs environnementaux d'une vie, avec des facteurs hormonaux et autres. Mais dans le cancer en général, on voit bien que si on est avec des conditions sociales défavorisées, on va moins participer au dépistage, on va avoir plus de facteurs de risque tels que le tabac, la malbouffe, l'obésité, la sédentarité. Et donc, indirectement, j'allais dire que la pauvreté est un facteur de risque. C'est terrible, hein, que je suis en train de dire. Ouais. Mais je parle toujours de facteurs de risque et de statistiques. Et ça, c'est très important. Et puis, j'ai pas parlé aussi d'un autre domaine, c'est qu'on va peut-être consulter moins facilement et moins rapidement.
Comment vous l'expliquez, ça? Une peur de rentrer dans un processus de soins qui va coûter cher, qui va être lourd, qu'on va pas pouvoir porter parce que peut-être on est un peu isolé?
Je pense qu'il y a un côté culturel. Et puis vous voyez bien actuellement quand on voit la démographie médicale qui est quand même en berne, on aura beaucoup plus peut-être de facilité dans notre réseau amical, familial, de connaître un médecin ou connaître quelqu'un qui connaît pour avoir des rendez-vous plus rapides.
C'est terrible ce que vous nous dites, parce que vous nous dites sans réseau, en fait, on a moins de chances de s'en sortir.
Non, pas de s'en sortir, mais je pense que nos auditeurs, ils savent très bien que. Pour avoir un rendez-vous, parfois, il faut passer par différents réseaux, mécanismes, voilà.
Et tout le monde n'en a pas.
Et on peut penser que quand on a une condition sociale plus élevée, il y a peut-être plus de facilité. Je pense que c'est une réalité.
C'était la première parenthèse, vous avez dit première parenthèse, oui, la deuxième, il nous reste 3 minutes.
Elle a duré longtemps, et c'était pour... la guérison, enfin les progrès pour les cancers. Et il y a une notion que ne sait pas forcément le grand public. Le plus important, globalement, dans le traitement des cancers, c'est la chirurgie. C'est pas forcément les traitements médicaux. C'est très beau, les traitements médicaux. Il y a une industrie pharmaceutique qui est très importante et il faut qu'elle existe et on doit avoir des nouveaux traitements.
Vous parliez d'hormonothérapie tout à l'heure.
C'est autre chose.
C'est autre chose.
L'hormonothérapie, ça peut être un médicament, mais c'est...
Ça remplace pas.
Non. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est-à-dire que si on investit dans un nouveau pays, on va dans un pays qui a pas de structure médicale très importante, ben la première chose à faire, c'est la chirurgie, c'est d'apporter des chirurgiens qui opèrent très bien. Et les traitements médicaux sont ça c'est de façon globale hein, ce que je suis en train de dire, sont en plus. C'est sûr qu'il y a des maladies hématologiques, les leucémies, ça se traite pas par chirurgie, ça se traite essentiellement par médicaments. Les tumeurs germinales, les cancers du testicule, ça se traite un peu par chirurgie et beaucoup par médicaments. Mais la grande majorité des cancers, le moment le principal et le plus important, c'est la chirurgie. Et on parle toujours des médicaments, mais la chirurgie a fait d'énormes progrès. Mmh. Et c'est vraiment un point très positif dans le traitement des cancers.
Ma dernière question, docteur Philippe Deguiral, on a assez de soignants, d'oncologues, de cancérologues en France pour soigner, accompagner les personnes qui souffrent de cancer, quels que soient les cancers?
Je vais parler d'une autre population que vous n'avez pas citée, c'est les médecins généralistes. C'est la pierre angulaire. Donc, pour pouvoir évoquer, rencontrer quelqu'un, parler de maladie, il faut d'abord le médecin généraliste. Mais non, il manque des soignants, c'est certain. Oui, oui.
Merci, docteur Philippe Deguiral. Je rappelle que vous êtes oncologue médical et que vous exercez à l'hôpital de Tarbes-Lourdes. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup.
Merci aussi à vous, à Anne-Rose Jankovic.
Présence.
Dans un instant, balade en pays de Lourdes, direction le musée du Petit Lourdes avec Laurent de l'Office de Tourisme de Lourdes. Et puis à 13h, l'actualité nationale et internationale. Très bon appétit à vous qui nous écoutez dans notre région Occitanie.
Dans la planète Terre, mes plaies saignent de l'encre de perles sur un paquet de feuilles. Je m'adonne la nuit quand mes idoles s'endorment. Certains souhaitent qu'à mes obsèques ce soit ces textes que l'on entonne. Nos mains agiles agissent dans l'argile. Mes yeux au bord des lèvres chuchotent des propos fragiles. J'aime chanter mes sentiments, j'ai des pensées sémantiques. Les rêves immenses d'un homme vivant. Nos mains agiles agissent dans l'argile. Mes yeux au bord des lèvres chuchotent des propos fragiles. J'aime chanter mes sentiments, j'ai des pensées sémantiques. Des rêves immenses d'un homme vivant. J'analyse l'évidence, j'ai quitté le silence. L'air est lancé, les mots dansent dans ce récit écrit dans ma résidence. Les si rendent indécis, je m'élance. Marie m'est si lente, je sirote les syllabes. Marie, ma fiancée, l'assonance est confidentielle. La messe est immense, rassurante, je suis moins seule. Les sujets sont denses, nos vies sans nuance. Ma vie c'est nuance, ensevelée dans un linceul.
Dans ses arpèges, dans la paix.
d'un homme vivant.
Radio Présence, place du Capitole, 97.9. Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Direction le Petit Lourdes avec Laurent de l'Office de tourisme de Lourdes. Bonjour Laurent.
Bonjour Gilles.
Alors pour les auditeurs qui nous écoutent un peu loin, il n'y a pas le Grand et le Petit Lourdes. Le Petit Lourdes, c'est un musée avec la reconstitution au temps des apparitions des bâtiments de la ville de Lourdes.
C'est ça. Donc, je trouve intéressant qu'on se pose un petit peu deux minutes sur ce lieu étonnant qui est le Petit Lourdes. Voilà. Alors que des fois les visiteurs vont trouver, d'autres vont passer. Voilà. Moi, j'invite à y passer un peu de temps. Ça se situe le long du Gave de Lourdes, avenue Peyramale. Donc, c'est assez facile d'accès. Et effectivement, c'est assez unique. Voilà. C'est un endroit où on va trouver une maquette géante de Lourdes au temps des apparitions. Quand je dis une maquette, c'est plusieurs maquettes, plusieurs reproductions de Lourdes autrefois, plusieurs bâtiments. Donc, ça a une échelle 1/30. C'est Georges Simonin, donc, qui était cheminot, qui venait de Lorraine, de Meurthe-et-Moselle, qui est arrivé sur Lourdes et qui a consacré 25 ans de sa vie, en fait, à réaliser ce village miniature en maçonnerie, en plâtre. Voilà, il a construit tout ça. Alors, c'est intéressant parce que ça permet effectivement de visualiser finalement ce qu'était Lourdes à l'époque des apparitions. Donc on voit bien l'architecture de la ville, comment elle était faite, comment elle était constituée, et elle n'a pas du tout le visage aujourd'hui forcément, donc on revient un peu dans le passé. Et durant la visite, on va se promener en fait dans un jardin extérieur avec un audio guide, donc en différentes langues selon la nationalité, mais bon, forcément français aussi. Et à différentes stations, voilà, il y aura des explications sur ce qu'on voit à la fois visuellement sur les bâtiments, à la fois sur l'histoire de Lourdes. Donc on va parler forcément de Marie Soubirous, de sa famille, de l'époque, de ce qui se passait à Lourdes. Voilà, donc c'est assez intéressant, assez surprenant. Il y a un jardin aussi plutôt sympathique avec des petits bonsaïs. Voilà, des plantes, des arbres, et on va retrouver les endroits principaux, l'église Saint-Pierre, donc du temps des apparitions au centre-ville de Lourdes. On va retrouver le château fort, forcément, qui est le monument emblématique. On va trouver la grotte de Massabielle à l'époque, donc qui ressemble pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui, hein. Donc toute cette zone là autour, avec une ferme, avec le gave de Pau qui était vraiment pas fait de la même façon qu'aujourd'hui, pas contraint, voilà, donc qui coulait pas de la même façon. On retrouve ce fameux ruisseau qui était le Lapaca, avec tous les moulins. Donc ça, c'est intéressant aussi dans l'histoire de Lourdes de voir tous ces différents moulins qui avaient leur utilité. Et donc dans l'histoire de Barnett aussi, qui avait un père qui était meunier, forcément ça parle. Voilà, donc c'est une jolie visite, une jolie découverte, et c'est assez étonnant.
Ça permet de mieux comprendre comment était Lourdes autrefois, et donc ce musée aujourd'hui appartient toujours à la même famille, aux descendants.
C'est ça, ce sont les descendants en fait de Georges Simonin, donc monsieur Gimenot qui poursuit en fait le travail de Georges. Voilà, et donc ils font visiter effectivement ce musée à ciel ouvert, et voilà, et on finit dans une salle après avec une reproduction, la dernière, qui est la basilique, en reproduction en plâtre, en fait à une échelle 1/20, donc comme autant après les apparitions, comme autant d'autrefois, donc pas telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle qu'elle est à l'époque où Georges Simonin l'avait réalisée. Donc elle est très belle aussi, et à regarder. Voilà, à voir.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce musée du Petit Lourdes. On va peut-être le resituer à Lourdes si des auditeurs souhaitent venir visiter.
Oui, ça se situe, je disais, le long du Gave de Lourdes, en fait, avenue Peyramale. Donc, quand on va longer le Gave, on a l'esplanade du Paradis avec les parkings. Mais de l'autre côté, sur la rive de l'autre côté, il faut passer un pont, en fait, et aller en face. Et c'est là que va se trouver ce musée du Petit Lourdes.
Merci Laurent pour cette idée, cette proposition de visite. Je rappelle que vous faites partie de l'Office de tourisme de Lourdes. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Donc, balade en pays de Lourdes, à bientôt.
Merci Gilles, à très bientôt à Lourdes.
Balade en pays de Lourdes. Partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence. Il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présence Matin, l'émission qui égaye votre quotidien.
Présence. Présence à Luchon, 94 FM.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Le pape Léon XIV en visite au Quirinal ce mardi matin. Il a été reçu par le président italien Sergio Mattarella.